Interview.
1 du jour.
Salut, Greg au téléphone, Greg qu'on avait eu au téléphone pour présenter la revue Notre École à l'occasion de la sortie du numéro qui, ça y est imprimé les abonnés l'ont reçu et la diffusion commence. Greg, tu nous entends ?
Oui, je vous entends très bien, ouais, bonsoir.
On avait prévu de se revoir pour parler plus spécifiquement de ce numéro une fois que je l'aurais eu dans les mains. Ça y est, je me suis dit, tiens, en fait, on va pas en parler que ce soir avec toi, on va en parler encore d'autres fois. Et ce soir avec toi, ce qu'on s'était dit qu'on pourrait faire, c'était présenter la revue du point de vue avec le point de vue de la pédagogie sociale, un peu ce croisement, et puis présenter le numéro plus précisément, et puis ensuite aller creuser dans un thème que tu connais bien, qui est les EPK, le croisement avec la pédagogie sociale. On sent vraiment ça quand on lit la revue, c'est une histoire de croisement.
Oui, tout à fait. En fait, ce numéro-là, c'est le numéro 33 de la revue Notre École. Et c'est un numéro qui paraît après 10 ans de travail et puis 10 ans de publication. Et il apparaît d'une manière probablement un petit peu comme une sorte de bilan de ces 10 années écoulées. Et effectivement, sur le mode croisement, parce que c'est une des particularités de la revue, c'est d'être animé, on l'avait dit la fois dernière, par des militants de la CNT Éducation, donc d'un syndicat. Mais c'est une revue qui se veut ouverte le plus largement possible, qui essaye de faire intervenir le maximum de personnes. Et par exemple, sur ce numéro, on a tenu à travailler avec des gens qui participent à un chantier au sein de l'ICEM. Alors l'ICEM, je précise, c'est l'Institut coopératif de l'école moderne, plus connu en fait sous le nom de Mouvement Freinet. Ce sont les héritiers de ce qu'a pu pratiquer le Célestin Freinet et beaucoup d'autres dans sa classe. Et donc au sein de ce mouvement coopératif de l'école moderne, il y a un chantier qui s'appelle le chantier de pédagogie sociale avec lequel on a monté ce numéro pour essayer d'aborder cette notion de pédagogie sociale qui peut paraître un petit peu mystérieuse comme ça au premier abord et qu'on a essayé d'abord d'expliquer et d'expliquer en la définissant mais surtout en montrant en pratique ce que ça pouvait donner.
Ouais, parmi les héritiers, puisque moi je ne sais pas si la pédagogie institutionnelle n'est pas aussi héritière de Freinet en partie, ou qu'il y en a aussi d'autres qui... Mais du coup, c'est un héritage qui est assumé par des gens qui font de la pédagogie sociale, alors.
Ah oui, totalement, sachant que voilà, la pédagogie sociale, c'est un concept que nous, en fait, au sein de la revue, on a croisé, c'est assez étrange cette histoire. Il y a maintenant 7-8 ans, je crois, on avait écrit un article qui s'appelait « Vers une pédagogie socialement critique ». Dans cet article, on essayait de définir un petit peu qu'est-ce que c'était cette idée de faire à la fois du syndicalisme et du pédagogique, c'est-à-dire avoir en même temps une réflexion sur nos pratiques. Pour beaucoup d'entre nous, on travaille au sein de l'éducation nationale, et avoir une réflexion sur ces pratiques et les mettre en cohérence non seulement avec les luttes qu'on mène en tant que militants syndicaux avec nos collègues de travail, mais aussi avec le projet de société qu'on a, puisque la CNT, c'est un des rares syndicats qui reste aujourd'hui à se battre non seulement quotidiennement au jour le jour, mais aussi dans une perspective révolutionnaire pour changer la société. Et donc un des points de départ de la revue Notre École, c'était comment lier les deux, comment être en cohérence entre ses pratiques et ses aspirations, ses idéaux, et puis comment essayer de réfléchir, d'inventer peut-être ou de renouer avec une pédagogie qui soit particulièrement attentive aux questions sociales, aux questions de transformation sociale, mais aussi aux questions d'inégalité sociale et aux moyens de lutter contre ces inégalités. Et on pense que c'est des choses qu'on espère qu'ils peuvent se faire au sein de l'éducation, mais en tout cas qui doivent être posées à partir du moment où on a l'ambition de travailler avec des enfants. Oui, et donc nous, la pédagogie sociale, c'est ça, c'est vers une pédagogie socialement critique.
C'est déjà, Greg, des éléments de définition que tu donnes, et parce que du coup, dans cet édito, dans le premier édito, il y a deux éditos. Hein, cette revue est particulièrement fournie. D'ailleurs, c'est que la pédagogie sociale cesserait de porter et de semer. C'est les premières lignes le long du chemin parcouru avec les enfants, les promesses d'un projet de société. Et qui s'inscrit dans le cadre d'une éducation progressiste. Et ce que tu évoquais juste avant, ça se ressent beaucoup dans la revue comme un cheminement vers un peu une adéquation entre ce qu'on imagine pour des enfants entre guillemets qui est aussi un rappel à nos propres vies. Parce que en fait, dès le début de l'édito, à chaque fois qu'on lit, de former des enfants à la capacité de s'exprimer sur ce qui peut améliorer concrètement leur milieu et conditions de vie, et pour commencer, le contexte de leur éducation. D'une part à formuler des opinions sur les décisions qui les concernent, et ça dans l'édito textuellement ça s'adresse aux enfants que moi je mets entre guillemets du coup là pour ce que je veux dire, à délibérer du coup leur capacité à délibérer, décider, agir ensemble au moyen de procédures démocratiques à propos de sujets et de projets d'intérêt collectif émanant de leurs propres initiatives, qui maintenant enfant ou adulte peut dire faire ça. Et du coup, à chaque fois qu'on a enfant ici, on se rend bien compte que c'est les enfants en tant que classe dominée. Et ça, l'édito, moi je trouve, il est bien parce qu'il finit bien, en tout cas, je veux dire là-dessus, sur que tous les enfants, qu'ils soient des classes populaires défavorisées ou des classes aisées, sont en régime d'oppression, sont en régimentés. Mais en fait, on a tous et toutes été enfants. Et du coup. Voilà, ouais, pour dire qu'on sentait, parce que tu venais de dire, on sent bien ce rapprochement dans le numéro comme un chemin vers ce qu'on espère quand on est avec des jeunes, c'est aussi ce qu'on voudrait pour nous. Mais je te laisse continuer peut-être sur des éléments de définition de la pédagogie sociale.
Oui, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, le principe même, j'ai envie de dire, de la pédagogie sociale, c'est qu'elle ne peut pas être figée, puisqu'elle part du principe que c'est avec les enfants, quand c'est dans le cadre d'enfants, mais ça peut être avec tous ceux qui participent à une communauté éducative. C'est un chemin qu'on fait, donc partir sur un chemin en sachant déjà où on veut arriver exactement et de quelle manière, c'est biaiser les choses. Donc la revue, elle voulait démontrer aussi que cette notion, cette idée de pédagogie sociale, elle est pas réductible de quoi qu'il arrive, elle n'est pas réductible à quelques recettes ou à quelques techniques. C'est vraiment une découverte, et une découverte qui ne se fait pas juste par quelques pédagogues comme ça, isolés et à l'écart du monde. Non, elle se fait, le chemin, il se fait en marchant, comme disent certains, et ça se retrouve tout à fait dans la pédagogie sociale. Alors oui, si on cherche à définir un petit peu cette notion, parce qu'il y a un des articles qui dit c'est tellement riche qu'on peut y mettre un petit peu tout et n'importe quoi du coup, et qu'on prendrait le risque d'appeler pédagogie sociale un petit peu des choses qui ne le sont pas forcément. Alors, la définition de la pédagogie sociale. Alors déjà, le terme, le concept, il a été forgé par une pédagogue militante polonaise, s'appelle Hélène Radzinska, et c'est quelque chose qu'elle a essayé de définir autour des années 1910. Et alors elle, sa manière de définir la pédagogie sociale, c'est d'inscrire et d'ancrer l'éducation, d'ancrer le travail éducatif dans le milieu, c'est-à-dire pas en faire quelque chose de déconnecté, on y reviendra certainement plus tard avec les exemples, par exemple en Kanaki, mais d'avoir une école et une éducation qui soient ancrées dans le milieu. Premier élément. Deuxième élément, que cette éducation, elle porte sur le milieu, c'est-à-dire que c'est à partir de l'analyse, de l'étude de ce milieu qu'on va pouvoir construire des contenus, des savoirs. Et troisième élément de cette pédagogie sociale, c'est qu'elle a une visée qui est une visée de transformer le milieu avec les gens de ce milieu. Donc c'est une pédagogie dans, à travers et pour le milieu. Donc ça, c'est ce qu'elle met en place, et de manière très très concrète, en Pologne, dans un contexte, la Pologne à ce moment-là, elle est occupée par à la fois l'Empire russe et l'Empire prussien, et donc dans une dynamique de lutte, de lutte sociale, de lutte pour la libération de la Pologne. Elle aura le droit à un séjour dans les camps de Sibérie, mais tout au long de sa vie, elle va essayer de creuser cette idée de pédagogie sociale. Alors, ensuite, la pédagogie sociale, on la retrouve dans des écrits de Célestin Freinet, qui s'est pas contenté d'être simplement un instituteur dans sa classe, mais qui a toujours eu, depuis ses débuts, un engagement, notamment syndical, dans un syndicat qui se définissait alors comme révolutionnaire et qui était impliqué dans la vie de son village. Il avait monté un syndicat de paysans, il a participé à l'électrification de sa commune et puis il s'est toujours engagé très très ouvertement pour renverser cette société. Et dans son combat, forcément l'école et la pédagogie avaient une place essentielle, mais c'était toujours dans une perspective de transformation sociale. Donc lui, il va reprendre ce terme dans certains textes de pédagogie sociale. Et puis, c'est quelque chose qui va être un petit peu oublié, et puis comme ça ne vient pas avec Radvinska forcément de France, il y a une certaine distance par rapport à ça, et ça réapparaît au détour des années 80, 90, et puis maintenant dans les années 2000, avec des gens souvent issus, non pas de l'éducation nationale, mais par exemple du milieu des éducateurs de rue. Et une personne comme Laurent Hoth, là, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de pédagogie sociale et qui participe très activement à ce numéro. Et alors lui, la pédagogie sociale, il va la définir comme une nouvelle étape dans la réflexion pédagogique. Alors, qui va opposer à la pédagogie traditionnelle, celle qu'on connaît dans l'école de héritée de Jules Ferry et dans laquelle on a fréquenté les uns et les autres, où en fait l'élève, l'enfant qui apprend, il est simplement spectateur de ses apprentissages. Il reçoit des apprentissages, on pourrait dire aussi consommateur. Face à cette pédagogie traditionnelle, il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé le mouvement de l'éducation nouvelle, qui s'est développé pour réagir à ce système et qui a voulu faire de l'enfant un acteur de ses apprentissages. Donc ça fait tout ce qui est pédagogie active, etc. Et puis la pédagogie sociale, elle viendrait pour rappeler aussi que l'enfant doit être un auteur de ses apprentissages et que c'est aussi à lui de construire avec ses éducateurs, avec les pédagogues, mais c'est à lui de construire ses savoirs, ses apprentissages et de s'impliquer à l'intérieur de ses apprentissages. Voilà pour une vision assez, il y aura encore des choses, des détails à peaufiner, mais peut-être qu'on y reviendra.
Alors des réactions peut-être dans le studio.
Oui, salut Greg.
Salut.
Je viens de découvrir en fait la revue qui m'a été fournie par Aline là, juste avant de rentrer dans le studio, que j'ai feuilleté un peu rapidement, mais du coup je me suis arrêté surtout sur l'édito où il y a quelques définitions de cette pédagogie sociale. Il y a quand même deux choses, enfin du coup je voudrais te poser une question à partir de deux phrases que j'ai trouvées dans cet édito. Le défi complexe et passionnant de toute éducation progressiste, ce serait devoir tenir la main de l'enfant et de tous les enfants, en même temps que, et jusqu'au point de devoir la leur lâcher. Ce qui renvoie à une autre phrase que j'ai envie de citer, qui est la dernière en fait de l'édito, et qui se termine par « un projet de société qui permettrait à toutes les jeunes mains, certes, d'être tenues le temps d'être lâchées, mais lâchées aussi dans l'idée d'être solidairement tendues ». La question que j'avais envie de te poser par rapport à cette idée de pédagogie, en l'occurrence sociale, mais qui, à mon avis, reflète un peu toute idée éducative, qu'est-ce qui empêcherait que ces jeunes mains qui doivent être tenues d'abord puis lâchées, qu'est-ce qui empêcherait de ne jamais les attraper, de les laisser libres d'emblée?
Ah, oui, je vois. Je pense que, en particulier pour un certain nombre de participants à ce numéro, pour beaucoup, ce sont des éducateurs de rue qui se retrouvent dans les quartiers qu'on appelle les quartiers particulièrement défavorisés. Et puis, pour ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale, c'est vrai que la plupart d'entre nous, on enseigne, moi je suis dans la banlieue parisienne, à côté de Mantes-la-Jolie, et on enseigne dans des établissements, je suis en collège, où on s'aperçoit aussi de ce que peut être les ravages d'enfants laissés un petit peu comme ça, en dehors de tout accompagnement ou de toute stimulation. Parce que faut aussi leur tendre la main dans une perspective déjà de pas se laisser aller, ce qui peut dans certains cas arriver. Et puis c'est aussi une forme de résistance par rapport au milieu environnant, parce qu'on a parlé d'une pédagogie qui s'appuie sur le milieu. Ce milieu, il peut être aussi hostile, je pense, je sais pas, au temps de cerveau de TF1 ou à la société de consommation, etc. Et c'est vrai que les enfants, par exemple, peuvent être particulièrement sensibles à ces choses-là. Enfin voilà, j'aurais envie de répondre que il y a les chemins vers l'émancipation, ils ont besoin d'acquérir un certain nombre d'armes, de culture, de principes, et ne serait-ce que les valeurs de solidarité ou de travail collectif, elles sont pas forcément innées. Elles peuvent l'être dans certaines situations. pas nécessairement.
En tout cas, elles sont pas mal étouffées par le système dominant quand même, ce qui peut empêcher les jeunes et les moins jeunes et les vieux de tendre la main. C'est l'apprentissage à l'individualisme et le fait que non, on ne tend pas la main, que ce soit pour aider ou que ce soit pour demander de l'aide, ça ne se fait pas. Voyons, de quoi parlez-vous Vous êtes hors système, hors sujet.
Non, mais c'est évident. Il y a un article dans la revue sur une école antisociale. Par rapport à la définition que nous, on a donnée de la pédagogie, c'est clair que le modèle hérité de Jules Ferry, là, qui a été honoré et salué par le nouveau président de la République à sa cérémonie d'investiture, c'est un modèle qui est aux antipodes de ce qu'on imagine, de ce qu'on rêve et de ce qu'on veut faire. T'as tout à fait résumé les mots individualisme, compétition, concurrence. Dès qu'ils sont prononcés dans le cadre du libéralisme, ils font descendre tout le monde dans la rue. Quand il s'agit du fonctionnement de l'école, il n'y a pas grand monde pour pas trouver ça normal, évident. Et voilà, à l'école, il y a des contrôles. À l'école, on s'entraide pas. Il faut pas. On apprend à pas tricher sur le voisin. On apprend à travailler pour soi et seulement pour soi et pas forcément avec les autres. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont, depuis sa création, véhiculée par l'éducation nationale. Et donc, il y a aussi peut-être à tendre la main pour sortir le maximum de personnes de cette idéologie-là et de ces principes-là.
Oui, et moi, j'ai l'impression qu'on tend la main des deux côtés. Je ne fais pas éducateur, je fais animateur, des fois. Je vois l'ambivalence qu'il y a dans ce truc de tendre la main. Est-ce que c'est une position d'autorité ou de quel côté? Est-ce que c'est une position de dominance ou ok, vu que je suis auteur de moi, tendre la main, je le fais et j'assume que je le fais, mais c'est pourquoi? Et du coup, est-ce que c'est pour te sortir, toi de la merde, ou est-ce que c'est pour moi me sortir de l'autorité? Parce qu'en fait, franchement, moi, quand je fais des séjours d'animation, je tends la main pour que la personne que j'accompagne me montre où elle va et ce qu'elle a dans la tronche, et me guide vers des choses qui sont où moi je ressens un besoin. Voilà, je fais pas ça très souvent, je ne risque pas le burn-out, mais comme un besoin de voyage de moi, et je tends la main pour aller quelque part avec une personne, avec une rencontre. Et c'est sûr que en même temps voilà, je lui fais mettre ses chaussettes et etc, et du coup il y a de tout, quoi. Enfin, c'est hyper complexe. Mais il y a quand même toujours, moi je suis pas, enfin en fait, tous nous éducateurs, éducatrices de trucs adultes en général, on a, moi je ressens très fort que j'ai baigné dans ce, que je suis pétri de ce truc d'autorité que je reproche à l'éducation nationale, mais j'en suis moi aussi fait. Et du coup, c'est des trucs qui sont hyper importants à analyser, comme ils poussent, je trouve, des trucs de pédagogie sociale, où justement on se pose la question en miroir, nous qu'est-ce qu'on fait? On fait des assemblées, nous, pour décider, on a un salaire, et du coup on est esclave d'un patron, et du coup, vas-y, mais toi sois libre, et du coup, ben, la pédagogie sociale, c'est ouais, nous aussi, quoi. T'avais commencé à parler, ouais, je sais pas si on...
Non, je trouve que t'expliques ça très très bien et beaucoup mieux que moi, et que effectivement là, cette histoire de tendre la main, alors deux petites remarques par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que la position, elle doit être absolument pas dans une perspective de pédagogie sociale, elle doit être absolument pas être nourrie de certitude ou voilà, de venir déverser un savoir, quand bien même il serait le plus honorable et le plus émancipateur. Alors voilà, il peut pas y avoir d'émancipation, il peut pas y avoir de libération des opprimés par les oppresseurs. Je prends les termes spécialement parce qu'il y a un article sur un pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire dans l'article, qui justement lui a bien réfléchi à ces questions, en tout cas a bien posé les problèmes que tu évoques dans un livre qui s'appelle Pédagogie des opprimés. Alors que je conseille, mais qui est super dur à lire, mais ça vaut le coup. Alors si on se balade sur Internet, on trouvera des présentations un peu plus accessibles de ce qu'il a dit. Et puis, dernière chose, puisque tu évoquais le mot autorité, c'est assez intéressant parce que une des participantes à ce numéro, qui est d'origine polonaise et qui est venue travailler en France il y a quelque temps, elle a écrit un article, l'article sur Helena Radlinska, et à un moment, elle dit la pédagogie sociale, c'est une pédagogie, il faut développer une pédagogie d'autorité. Et alors évidemment, nous, en lisant son article, on a bondi, quoi, ce terme-là, c'était... Mais en fait, pédagogie d'autorité, ça veut dire une pédagogie de l'auteur. C'est dans ce sens-là qu'elle l'exprimait. Et donc nous, on l'a remplacée parce que c'était beaucoup trop ambigu dans le cadre français. Mais ce que tu disais sur cette question d'autorité, voilà, effectivement, à partir du moment où l'enfant devient auteur aussi de ses apprentissages, et ça se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est un horizon, il peut plus non plus y avoir de question d'autorité de la part du maître, comme on l'appelle fort justement.
Tu citais Laurent Hoth, qui est un des participants. Comment, en fait, comment toutes ces personnes qui ont contribué à construire ce numéro sont rencontrées? Et peut-être tu nous parleras plus précisément, on attend École populaire Kanak. Parler ouais. Un peu de la revue avant de parler de Kanak.
Très rapidement, je parlais du chantier. C'est un groupe de travail, quoi, ils appellent ça chantier, de pédagogie sociale au sein du mouvement Freinet. Très vite, pour résumer, il se trouve que la particularité, la spécificité de ce groupe de travail au sein du mouvement Freinet, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'enseignants. C'est-à-dire que c'est des infirmières ou des infirmiers, des éducateurs de rue. Il y a l'édito dont on a beaucoup parlé là au début, il a été écrit pas par un enseignant mais par un médecin scolaire, un militant associatif. Et donc j'ai l'impression qu'un petit peu le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils ont un regard sur l'institution qui est un petit peu décalé, enfin sur l'institution éducation nationale, parce qu'ils sont aussi tous pris dans leurs propres institutions, mais qui sont pas celles de l'éducation nationale, un petit peu décalé, et que du coup ça apporte aussi une richesse de regard, parce qu'ils vont travailler avec ces enfants après les périodes scolaires, enfin le temps scolaire, ou pendant les vacances, ou avec des personnes qui sont déscolarisées ou qui n'ont pas été scolarisées, parce qu'il y a des expériences d'ateliers d'alphabétisation, voilà. Et Laurent Hoth, là-dedans, il a un petit peu un rôle un petit peu emblématique, dans le sens où, voilà, à la rentrée dernière, il a démissionné de l'éducation nationale. Il avait été instituteur dans l'Essonne, dans le 91, la banlieue parisienne. Et puis, après avoir goûté d'autres pratiques, et notamment celle d'éducateur de rue, mais il a fait le constat un petit peu qu'il avait été au bout de ce qu'il pouvait faire au sein de l'école. Et donc, voilà, il s'est tourné vers autre chose. Mais voilà, je dis ça, mais la pédagogie sociale, elle peut aussi se faire au sein de l'école avec toutes les limites et les ambiguïtés que ça représente. Mais c'est encore à l'heure actuelle, et puis ça nous fera peut-être la transition sur les écoles populaires Kanak, c'est aussi là que se trouve la quasi-totalité des enfants, et en particulier ceux des classes populaires. Donc, difficile de faire l'impasse ou de croire qu'on peut être dans une démarche en étant simplement autour de l'école. Il y a aussi un... C'est ce qu'on questionne dans notre édito BIF, celui qui a été rédigé par les gens de la revue.
Ouais, et du coup, moi, ça me rappelle aussi quelque chose qui se passait à peu près au même moment que ce que faisait Hélène Radlinska, c'est par rapport à l'adaptation au milieu et à ce milieu populaire, c'est les expériences de Francisco Ferrer qui sont complètement parallèles, où alphabétiser les enfants, c'était parce que c'était aux enfants qu'il avait, qu'il pouvait parfois avoir accès, enfin Ferrer et puis les gens qui s'en inspirèrent quand il a été assassiné, et c'était aussi pour alphabétiser, enfin pour donner l'accès à la lecture, à l'écriture au peuple espagnol et aux parents par l'intermédiaire des enfants. Et il y a eu une émission sur Feu de tout bois où on a développé l'année dernière l'œuvre de Francisco Ferrer. C'était une parenthèse. Et du coup.
Intéressant, oui, et puis bon, je pense que vous avez dû en parler, mais quand Freinet, enfin, j'ai parlé de l'Institut coopératif de l'école moderne, le fait de reprendre l'intitulé école moderne, c'est une référence directe
à
Francisco Ferrer,
oui.
C'est dans la continuité de ses luttes, et voilà. Et Francisco Ferrer, il a cette particularité d'être un pédagogue, mais d'être, j'aurais même envie de dire, avant tout un militant engagé.
Et les écoles populaires Kanak, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? C'est quand même, on va dire, c'est la France, et alors on ne sait pas ce qui se passe. Vas-y, moi j'avais jamais entendu parler, du coup c'est aussi par carence personnelle de ne pas m'intéresser aux ex-colonies, aux colonies actuelles de l'État dans lequel j'habite. Mais et du coup, salut à tous les gens de Nouvelle-Calédonie et du monde entier qui nous écoutent sur Internet. Et puis aux gens de là-bas qui sont dans le Diwa et qui nous écoutent sur la FM, venez parler de chez vous. Et là, aujourd'hui, c'est ça, c'est les écoles populaires Kanak, une révolution éducative, un long article que je n'ai parcouru qu'en diagonale pointillé, parce que je me suis dit que vu que c'est toi qui le signe, tu pourrais nous en parler.
D'accord, alors j'ai essayé. Il est long et puis en fait c'est la version abrégée. Il y a une version complète sur sur le site internet parce que une fois que j'ai découvert au hasard d'une lecture en fait sur le sur une histoire de l'éducation libertaire, il y avait 10 lignes sur les écoles populaires kanak et j'étais comme toi, j'avais jamais entendu parler de cette expérience. Après coup, si on va voir qu'en fait il y a des choses qui sont quand même arrivées jusqu'à nous, mais ce sigle là, école populaire kanak, qui me disait rien du tout. Je savais pas ce que c'était. Bon, et puis en commençant à creuser un petit peu, parce que ça avait attisé ma curiosité, j'ai essayé de trouver des références, de voir ce qui s'était passé. Je suis tombé sur différentes choses. Alors pour replacer le contexte historique, il n'y a pas que des questions historiques. Hein, qu'il y a aussi, il y a beaucoup de questions pédagogiques dans cette expérience. Donc tout commence en 1984. Mmh. On est en Nouvelle-Calédonie. Il y a un mouvement populaire assez important qui vise à obtenir l'indépendance de la Kanaky. On n'appelle pas ça la Nouvelle-Calédonie, mais la Kanaky. Et qui est lancé en fait par deux regroupements d'organisations dont on a entendu parler, en tout cas le premier c'est le FLNKS qui a été créé au tout début des années 80, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, et qui a une branche syndicale qui s'appelle l'USTKE, l'Union Syndicale des Travailleurs Kanak, et le E c'est pour exploiter, et qui vont mener un certain nombre de luttes. Alors ça va donner des barricades, des barrages routiers, voilà, qui va déboucher sur la proclamation d'un gouvernement provisoire de Kanaky. Gouvernement évidemment en lutte avec le pouvoir colonial français, le pouvoir socialiste à l'époque, hein, on est en 84. Et donc une des premières décisions de ce gouvernement provisoire, ça va être d'essayer de régler le problème de la terre, qui est de la répartition des terres, qui est un problème particulièrement sensible. Mais il y a un second problème, encore peut-être plus douloureux et plus important dans ce contexte insurrectionnel, c'est celui de l'école. Alors pourquoi celui de l'école? Ben parce que l'école coloniale, c'est-à-dire l'école publique en Nouvelle-Calédonie, elle a cette particularité d'aiguiser particulièrement les inégalités et de doubler les inégalités sociales avec des inégalités ethniques. Alors dans l'article, je reprends des chiffres qui ont été donnés par un jeune étudiant en sociologie qui a travaillé sur l'école coloniale en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Loïc Vacan, et c'est un disciple de Bourdieu, et puis depuis il a fait un petit peu de chemin, il a publié pas mal de textes assez intéressants de sociologie, mais bon, une de ses premières études, c'est justement sur cette école coloniale. Et donc il écrit qu'en 1985, un enfant mélanésien a 2,3 fois moins de chances d'obtenir un CAP qu'un enfant européen. Il a 3 fois moins de chances de glaner un BEPC, 6 fois moins de réussir un bac technique et 12 fois moins de devenir bachelier des sections classiques. Et donc on voit bien comment l'habituel rôle de sélection sociale de l'école dans cette société kanak, il est doublé par une sélection ethnique extrêmement virulente, extrêmement surtout visible et sensible. Et donc, logiquement, face à cette situation que chaque habitant peut ressentir, le gouvernement provisoire lance un appel au boycott scolaire. C'est-à-dire qu'il appelle tous les Kanaks, toutes les familles Kanaks, à retirer leur enfant de cette école coloniale. Et à partir de là, va se lancer l'expérience des écoles populaires Kanak, c'est-à-dire on lance un appel au boycott, on veut plus de cette école coloniale, on la refuse, elle a simplement le rôle de tirer une petite élite locale qui servira de relais aux intérêts du colon, et puis de faire intégrer à l'immense majorité du peuple kanak son infériorité, en fait, son statut de colonisé. C'est un peu le rôle de l'école, hein. Si t'es nul à l'école, c'est-à-dire que t'es nul tout court, et ça, les kanaks l'ont très bien ressenti.
Et avec quelle vivacité, parce que du coup, nous en France, c'est quelque chose qu'on subit depuis l'école de Jules Ferry, du coup depuis plus d'un siècle,
oui.
Et qui a pris le relais des écoles catholiques et des écoles d'autorité, quoi. Du coup, on subit ce formatage là. Il y a aussi des épisodes d'appel au boycott des écoles ou de grève des écoliers dans nos contrées occidentales. Mais là, direct, au bout de finalement moins de temps d'oppression que nous, occidentaux, hop, on n'en veut plus. Et du coup, en 84, allez, hop, on crée des... Du coup, qu'est-ce qui se pose comme problème concrètement? Qu'est-ce qui se passe?
Pour répondre un petit peu à ta remarque, je pense que justement le fait d'avoir une école particulièrement ségrégative et qui répétait à longueur de journée que les Kanaks, les enfants Kanaks étaient bons à rien, qu'ils comprenaient rien aux apprentissages qu'on leur proposait, que voilà, que ça justement mis une certaine distance déjà entre la population et l'école. Ce qui est moins évident, par exemple, en métropole, où le mythe de l'égalité des chances, de l'ascenseur social, il fonctionne encore, même si c'est imparfait, il fonctionne, je veux dire, dans le sens d'un mythe, d'une...
Oui, mais même si l'école est quand même une école de classe, quoi.
On croit qu'elle est à l'école, bon après c'est toujours ambigu, mais on pense qu'elle est à l'école, ça va apporter quelque chose, on pense qu'il vaut mieux avoir des diplômes. Quand tout te révèle que de toute façon les diplômes tu les auras pas parce qu'ils sont réservés à ceux qui sont nés du bon côté, c'est déjà un peu plus facile de s'en détacher. Donc ça c'est une première piste d'explication. La deuxième c'est que ça joue dans un contexte d'effervescence sociale qui connaît pas d'équivalent qu'on n'a pas connu en France à part peut-être je sais pas 36 ou 68 ou voilà. Donc il y a aussi toute cette maturation sociale politique dans la population qui va accélérer le processus. Après c'est clair que c'est aussi des enjeux des coups de pression de la part de la direction du FLNKS qui veut médiatiser un petit peu tout ce qu'elle fait. Et donc, il y a cet appel au boycott scolaire. Et à partir de là, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Et honnêtement, dans ce que j'ai cherché, ils n'avaient pas forcément réfléchi depuis des lustres à quelle école ils voulaient, etc. Ils savaient quelle école ils ne voulaient pas.
Mais toi, tu évoques aussi des stages, des formations, des gens qui, tu évoques aussi voilà, des gens qui étaient sur place, qui avaient eu des formations ou les influences de Freinet, justement, ou du pédagogue brésilien dont tu parlais, je crois que c'est ça, dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais.
Et du coup, et puis aussi un truc en réaction avec une école immobile où du coup, là, on se met à bouger. Ça devait effectivement être l'effervescence. Et vas-y, je te laisse continuer.
Oui, non, il y a tout ça. Et puis, quand les écoles populaires kanak vont se créer, en fait, il se trouve, c'est pour ça que je parlais un petit peu du mouvement syndical, il se trouve que les instituteurs qui étaient pourtant militants indépendantistes kanak, engagés, etc., ils vont pas sentir le truc, quoi. Ils vont dire non, mais nous, on est fonctionnaires, on a un statut, on a des avantages parce que le statut de fonctionnaire dans les colonies, il est plus favorable. Et c'est pas des instituteurs qui vont prendre en main en fait l'animation de ces écoles. Mmh. Ça va être deux éléments, deux acteurs. D'abord les familles qui vont avoir un rôle extrêmement primordial dans les tribus, dans les villages, et puis des animateurs très jeunes qui sont les militants en fait, qui s'étaient retrouvés sur les barricades et dans les manifestations et qui vont vouloir poursuivre leur engagement politique à travers un investissement dans ces écoles populaires kanak et qui vont donc y investir une part de militantisme aussi. Pas forcément que pédagogique, mais aussi politique. Et donc, ces écoles populaires, elles vont émerger dans les tribus, plus ou moins grosses suivant les lieux. Alors, les chiffres que j'ai trouvés, c'est entre 6 et 15% des enfants kanaks qui vont, et des familles qui vont suivre cet appel au boycott et qui vont aller rentrer dans des écoles populaires kanaks. C'est énorme, surtout quand on connaît la réponse, en fait, de l'État français à cet appel au boycott, c'est la suppression immédiate, pure et simple, de toutes les allocations familiales. C'est-à-dire que faire le choix de mettre son enfant dans une école autre que l'école publique et dans ses structures alternatives, ça va signifier pour ces familles plus aucune allocation. Et souvent, dans les tribus kanaks, c'était vraiment la seule source de revenus.
Moi, j'avais une question par rapport à cet article-là précisément que j'ai lu juste avant l'émission et que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de cette expérience. Il y a une information dans l'article que je n'ai pas trouvée, mais peut-être qu'elle est dans la version plus complète, mais tu peux peut-être me répondre. Dans quelle mesure, dans cette organisation des écoles populaires kanak, les enfants étaient libres de fréquenter ces écoles ou pas? Parce que tu dis que c'était effectivement pas des instituteurs ou des professionnels de l'éducation, mais en fait, c'était quand même les familles, et on sait que la structure familiale repose quand même sur la domination des enfants. Dans quelle mesure les enfants fréquentaient ces écoles de façon libre, et dans quelle mesure ils avaient une marge de manœuvre par rapport à la prise en main de leur propre, de leur propre chemin, y compris le fait même de fréquenter ces écoles.
Ouais, je pense que, a priori comme ça, j'aurais envie de te répondre que c'est un choix des parents, de parents plutôt militants, j'imagine, et que les enfants, au départ, voilà, on leur dit maintenant tu vas plus dans cette école, tu vas dans celle-ci. Mais d'après ce que j'ai dit aussi auparavant, cette école coloniale, elle était, c'était un milieu hostile pour ces enfants. Et un milieu qui leur rendait en plus hostile leur propre culture et leur propre milieu de vie. Avec les écoles populaires kanak, il y a une volonté, et c'est là où on rejoint la pédagogie sociale, il y a une volonté d'inscrire l'école, l'enseignement, l'éducation dans le cadre du milieu et de la culture, de ce qui en kanak s'appelle la coutume. Et donc les enfants, ils vont se retrouver dans cette coutume, dans la vie communautaire. Et cette école, j'explique un petit peu dans l'article, en fait, elle pratique une pédagogie qu'ils appellent la pédagogie par alternance, où il y a à la fois des moments où on est en classe, entre guillemets, alors faut voir, il y avait des photos de trop mauvaise qualité pour les passionnés. Il y a quelques clichés sur ces écoles, c'est vraiment pas de luxueux, hein, les écoles populaires. Donc ils sont en général le matin dans ces lieux, et puis l'après-midi, ils ont des activités au sein de la communauté, au sein du village. Une autre, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que une autre objection qu'on pourrait faire à cette école, c'est celle de partir, de s'ancrer et de se référer uniquement à la tradition. Et une tradition, c'est une des critiques des sociologues. J'ai parlé de Loïc Vacan tout à l'heure, il dit oui, mais est-ce qu'il suffit de faire le contraire de l'école publique, de l'école coloniale, pour avoir une école émancipatrice? Lui, il émet un doute. Il dit la tradition en tant que telle, certes, elle peut enraciner les gens déracinés, et on sait que c'est un des principes du colonialisme, mais en même temps, c'est pas forcément, ça peut être aussi un mythe ou une nostalgie qui peut avoir des relents assez dangereux, ou en tout cas qui sont pas ceux qu'on peut partager. Et ce qui est très intéressant dans l'expérience des écoles populaires kanak, c'est que un des principes, c'est l'assemblée générale des élèves qui a lieu, alors suivant les écoles, mais en gros chaque semaine, pour faire le bilan de la semaine et puis se projeter dans la semaine suivante. Et cette assemblée générale, qui pour le coup est inspirée des pédagogies actives de Freinet, de la pédagogie institutionnelle, etc., où les enfants vont avoir la parole et vont avoir un pouvoir de décision, en fait, elle est totalement contraire à la coutume kanak, dans laquelle la parole dominante et la parole qui est écoutée, c'est celle de l'ancêtre, c'est celle des vieux. Et le fait que ces écoles vont développer une écoute, puis une attention, et accorder une importance à la parole des enfants, ça va renverser un certain nombre d'évidences de la coutume et de la tradition, qui vont faire que on n'est pas enfermé dans une tradition, on n'est pas enfermé simplement dans une communauté, mais on va avancer vers une émancipation à travers des outils pédagogiques qui sont mis en place. Un des exemples qui est assez frappant, c'est la place des femmes. Les femmes, elles vont jouer un rôle extrêmement actif dans les écoles populaires kanak. Or, la société traditionnelle kanak n'est pas forcément une société féministe ou qui tend à l'égalité des sexes. Et à travers leur investissement dans ces écoles, elles vont elles aussi prendre une place importante, servir de modèle pour les élèves, garçons ou filles, qui vont voir que leurs éducateurs, les adultes qui s'occupent d'eux et qui fréquentent, peuvent aussi ne pas répondre exactement aux normes traditionnelles qu'ils ont pu voir. Et cette démarche, moi, je la trouve particulièrement stimulante et intéressante. Voilà, elle permet de dépasser des interrogations et des limites qu'on pourrait se poser dans ce type d'école, voilà, très, très lié à des mouvements de libération nationale ou autres.
Et est-ce que tu connais des expériences qui, en métropole, pourraient s'approcher de quelque chose comme ça? Je pensais, enfin, il me venait en tête, par exemple, l'exemple du lycée autogéré. Est-ce qu'il y a des expériences? Parce que tu disais que le système là-bas était particulièrement caricatural, mais moi j'ai l'impression de lire finalement le même phénomène que l'éducation nationale en métropole, même si là-bas c'est peut-être plus caricatural avec cette histoire ethnique. En plus, quoique en métropole, ça marche aussi dans ce sens-là. Du coup, est-ce qu'il y a des expériences actuelles ou des expériences de fait, des mouvements ou des gens qui ont tenté quelque chose qui pourrait ressembler à ça et ou qui tendrait vers une expérience de ce type-là.
Moi, j'ai envie de dire, en fait, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que quand on parcourt un petit peu l'histoire des expériences pédagogiques alternatives, ou libertaires ou autogérées, on va retomber nécessairement sur les mêmes principes de fonctionnement. En gros, c'est-à-dire, j'ai parlé de l'assemblée générale des élèves, ça peut s'appeler le conseil de coopératif, il va y avoir le travail en groupe, il va y avoir une attention portée au collectif et non pas à l'individuel, il va y avoir la suppression des examens, la suppression des notes, des classements, etc. Ça, c'est toute une série d'invariants qu'on va retrouver partout. Et à plus forte raison dans les quatre établissements autogérés qui existent en France. C'est le lycée de Paris, le lycée autogéré de Paris, le lycée de Saint-Nazaire, le lycée collège, je crois, d'Hérouville-Saint-Clair et celui d'Oléron.
Ah, ils sont cités aussi dans l'article, ouais. Dans le numéro. Il me semble que le passage que j'ai lu sur les lycées, c'était aussi qu'ils servent aussi de justification à l'éducation nationale. On a nos cases autogérées et du coup, ça aussi, c'est dénoncé dans la revue. Du coup, moi, j'aurais eu envie de parler encore de plein de choses. Les EPK, c'est fini parce que les dernières nouvelles qu'on a datent de 95.
Oui. Alors, il reste une école, en fait, qui est l'école de Canala, qui apparemment, c'est super difficile. On tape EPK sur Internet, on trouve vraiment, vraiment quasiment rien.
Moi, appel à témoignage, alors, on a besoin de témoignages. S'il y a des gens qui connaissent, qui sont arrivés il y a quelques années en métropole ou des choses comme ça. On peut-être qu'il y a des gens qui viennent dans le Diwa ou qui nous entendent de quelque part et qui peuvent témoigner directement de comment. On a besoin d'informations, quoi. Ouais,
tout à fait. Moi, j'ai essayé de contacter des gens qui avaient ou de la famille ou qui avaient participé. J'ai même rencontré des instituteurs qui avaient été là-bas. Mais bon, aujourd'hui, j'ai du mal à avoir des informations. Il y a l'école de Canala qui semble toujours exister avec cette particularité que c'était l'école populaire la plus intégrée. Alors, intégrée, c'est un grand mot, mais dans le sens où, par exemple, elle avait accepté de passer une convention pour que les familles continuent à toucher leurs allocations familiales, ce que les autres écoles, dans une logique beaucoup plus de rupture, s'étaient toujours refusées à faire. Donc celle-ci, il semblerait qu'elle existe avec en ayant emprunté des chemins un petit peu différents. Les autres, elles ont duré pour certaines deux ou trois ans, pour les plus importantes, une dizaine d'années. Les dernières, oui, c'est en 95. Il y a quand même un élément qu'il faut pas négliger dans cette histoire, c'est que l'appel au boycott scolaire du FLNKS, il s'arrête au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, les dirigeants du FLNKS disent « Oh là là, on a été trop loin, c'est pas possible ». Et les écoles populaires kanak, elles vont lutter contre l'État français, elles vont aussi devoir lutter pendant très très longtemps contre le propre mouvement indépendantiste un petit peu bureaucratisé et effrayé. Très logiquement, je finis là-dessus, très logiquement, parce que la plupart des dirigeants du FLNKS, ce qu'ils voyaient, c'est que d'abord, le boycott, ils l'appliquaient moyennement, et puis leurs propres enfants, puisqu'ils étaient issus milieux plutôt favorisés ou des couches supérieures des Kanaks, pour beaucoup, ils voyaient surtout qu'ils couraient vers la perte de leur diplôme et d'une certaine reconnaissance sociale. Donc, c'est des questions très, 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 très compliquées auxquelles on s'affronte là. Et voilà, les questions de classe sociale, elles sont aussi extrêmement déterminantes derrière les enjeux ethniques et indépendantistes.
C'est intéressant de voir effectivement qu'à chaque fois, quelles que soient les institutions et quel que soit leur but affiché, même quand elles sont a priori contradictoires, dès qu'il s'agit de libérer l'énergie de la jeunesse, il y a effectivement une suspicion immédiate finalement de l'ensemble de la classe adulte par rapport à tous ceux qui sont plus jeunes et qui débordent d'énergie. Et si jamais on la met pas sous contrôle, c'est des remises en question qui sont souvent difficilement acceptables par la plupart des mouvements. Il suffit de voir, pour donner un autre exemple, la réaction des gouvernements actuels dès que les lycéens se mettent un peu à réfléchir et à se politiser, quoi.
Ouais. On peut trouver notre école. Alors Greg, si on peut, tu dis que le vrai numéro est sorti. Je sais pas si on peut essayer d'en avoir un à dit, mettons à la bibliothèque Infokiosque, la Cocoserie, pour continuer à le lire. Ben voilà, comme ça, cette revue sera disponible là-bas. Il y a dans cette revue, mais on l'avait déjà dit la dernière fois, des articles sur ce qui se passe à Die, à Cocos, les ateliers de rue du samedi après-midi, et aussi une des intervenantes, Mélodie, est prête à venir en parler dans une prochaine émission. Et d'autres sont les bienvenus, mais j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Et on trouvera notre école, et puis on verra aussi, on parlera des prochaines fois des moyens de se le procurer, mais déjà en consultation sur Internet aussi. C'est une revue payante 4 € comme ça, et 2 € sur Internet. On va en faire venir. Salut Greg, à une prochaine.
Salut.
Merci beaucoup pour votre invitation, c'était très très agréable.
Et on va passer directement, et ben je pense pendant une musique que Sophie pourrait nous mettre, à...
On va écouter un petit morceau de musique, quoi.
Tranquille.
C'était un morceau du groupe Comedia Mundi, qui était un groupe qui sévissait en Haute-Provence, mais qui n'existe plus. C'était la voix de Norma, une grande chanteuse qui n'est hélas plus de ce monde, mais qui était une grande dame et qui a fait beaucoup de choses intéressantes dans sa vie, notamment autour du théâtre et de la musique. Et puis on entendait aussi la voix de Johannes, qui a maintenant monté un groupe de musique qui s'appelle Johannes Trio, avec deux autres personnes qui composent des chansons, de très belles chansons, et que vous pouvez voir jouer dans nos contrées de temps en temps. Ils sont déjà passés à Die, et puis ils sont un petit peu, ils tournent un peu dans la région, et c'est de la musique que je vous conseille d'écouter si vous avez l'occasion.
Interview 1 Terre.
Hey, the bird.